Il y a du droit, Michel Burgon.
Bonjour. Le droit utilise des enquêtes, des preuves et des témoignages pour analyser les circonstances de la mort d'un individu et déterminer quelle est la qualification juridique appropriée. Le meurtre est l'acte de tuer intentionnellement une autre personne. Il peut être prémédité, c'est alors un meurtre au premier degré ou un assassinat. Et lorsqu'un otage est exécuté, il a été tué intentionnellement par ses ravisseurs. Et le droit traite cela comme un meurtre ou un assassinat en fonction des circonstances. Et si la mise à mort est commise par un groupe de personnes, avec une planification et une coordination, ce n'est pas une exécution, mais un meurtre en bande organisée, ce que le droit pénal considère comme une circonstance aggravante, car elle implique une organisation et une intention collective de commettre le crime. C'est à tort que l'on parle alors d'otage exécuté. Le sens réel du mot « exécution » correspond en réalité à la réalisation d'un acte légal et non à une sauvagerie. Louis XVI est mort le 21 janvier 1793. La Convention nationale, qui était l'Assemblée législative révolutionnaire, s'est elle-même autorisée à juger le roi, bien que cela ne fasse pas partie de ses missions statutaires. La Convention nationale a ainsi pris des mesures extra-légales et n'a pas respecté la législation en vigueur au moment des faits reprochés à Louis XVI. Cela a conduit à des actions qui sont des violations des principes de justice et de légalité. Les chefs d'accusation retenus contre Louis XVI, notamment sa trahison envers la nation et son complot contre les libertés publiques, reposaient sur des notions qui n'étaient pas définies comme des crimes au moment où il avait agi. Les accusations de trahison et de conspiration contre l'État visaient des contacts pris avec l'étranger, en fait, pour éviter un conflit armé. Même si c'était une erreur, cela faisait partie de sa fonction. Chaque individu a le droit d'être jugé de manière équitable et impartiale par un tribunal compétent et indépendant. Dans le cas de Louis XVI, la Convention nationale a agi en tant que tribunal, ce qui est une irrégularité en termes d'impartialité et de compétence. La Convention, à la fois accusatrice, juge et jury, était composée d'individus majoritairement hostiles au roi. Et par ailleurs, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, donc avant les faits, énonce le principe de non-rétroactivité des lois pénales. Les lois ne doivent pas être appliquées de manière rétroactive pour punir des actes qui n'étaient pas illégaux au moment où ils ont été commis. Louis XVI a été jugé pour des actions commises avant la Révolution et les lois appliquées lors de son procès n'existaient pas à l'époque des faits reprochés. Enfin, la Convention nationale, en tant qu'organe législatif, a assumé des fonctions judiciaires en jugeant Louis XVI, ce qui va à l'encontre de ce principe constitutionnel et fondamental de la démocratie, la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Compte tenu des circonstances extra-légales et des violations des principes de justice, la condamnation de Louis XVI était donc irrégulière et sa soi-disant exécution peut être perçue comme un acte proche de l'assassinat puisqu'il n'y avait pas exécution d'un acte légal. Et même, l'idée d'un assassinat en bande organisée pourrait être utilisée pour décrire la manière dont la condamnation et l'exécution ont été orchestrées et faussement légalisées par les révolutionnaires. Ainsi, loin d'être un simple épisode historique, le procès de Louis XVI continue d'interroger nos conceptions du pouvoir, de la justice et de la légitimité politique. Il nous rappelle que les grands bouleversements historiques posent des questions fondamentales qui traversent les siècles et surtout que le romantisme du récit historique ne doit pas totalement masquer la rigueur de l'interprétation juridique. À la semaine prochaine.